bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le bouche à oreille qui reçoit aujourd'hui l'association Terroise, représentée par Sylvain Ferrand. Bonjour Sylvain.
Bonjour Fred.
Alors Sylvain, tu vas nous présenter ton association, puis tu vas te présenter aussi aux auditeurs. Hein. Il y en a sûrement certains qui te connaissent peut-être sur le surnom de Titi.
Oui, c'est ça.
Voilà,
exactement.
On te connaît plus comme ça, voilà. Et donc je suis accompagné pour faire cette émission de Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Fred, bonjour Sylvain.
Bonjour Jean-Louis.
Donc Jean-Louis, Terroise, ça te parle un petit peu ?
Pas encore, mais je pense que ça va venir.
Ça tombe bien parce que c'était une association toute récente, hein, donc c'est un peu normal qu'on ait un manque d'infos.
Ce qui m'inquiétait un petit peu quand tu m'as invité à participer à l'émission, c'est que ça paraissait très sportif. Et tu sais que je suis pas un très très grand sportif.
Oui, mais tu es proche de l'environnement, tu connais bien notre territoire, donc ça va te rapprocher au sport, tu vas voir, j'en suis sûr.
On va dire que je suis randonneur retraité.
Eh ben voilà. Donc,
retraité à cause des jambes, comme beaucoup.
Donc le décor est planté. Donc si vous avez noté, c'est moi la technique aujourd'hui, puisque notre ami Luc, notre marsouin, n'est pas là. Donc on va faire sans lui, on le salue quand même. Et puis on va noter pour les auditeurs que si vous voulez poser des questions à Sylvain ou à son association Terroise, il y a le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com et le Facebook rvmfm. Voilà. Donc Sylvain, on va te laisser te présenter aux auditeurs et savoir ce que tu fais, parce que tu as un emploi du temps hyper chargé.
Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Déjà merci de m'accueillir et de me laisser l'opportunité de présenter l'association et ma micro-entreprise. Donc je m'appelle Sylvain Ferrand, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, je suis originaire de Crépy depuis toujours. Et donc je suis très implanté au niveau associatif, au niveau de la commune aussi, en étant un ancien salarié, enfin pas, on dit pas salarié, un ancien fonctionnaire de la mairie, et donc du coup, éducateur sportif, préparateur physique. J'aime bien un petit peu faire un petit peu la différence entre les deux, puisque les objectifs sont un peu différents, et animateur aussi sportif, donc voilà. Voilà un petit peu pour faire bref au niveau de ma présentation.
Oui, et donc ton objectif c'était de changer un peu de vie, de créer ta micro-entreprise en premier, c'est ça ? Et de créer une association ? Tu avais des besoins pour toi personnel peut-être aussi déjà ?
Oui, dans la démarche, je suis quelqu'un qui aime la polyvalence, qui aime bien changer, notamment de public, en ayant toujours comme base le sport. Et puisque j'ai une vision assez générale, autant j'aime, je disais préparateur physique, autant j'aime l'optimisation à la performance, j'aime la compétition préparer des athlètes, que ce soit sur des sports co ou des sports individuels, avec des objectifs comme des trails, des marathons, etc., ou des équipes amateurs de foot. J'ai fait la préparation physique du club de Crépy cet été, avant la reprise du championnat. Donc j'aime autant l'optimisation à la performance que l'animation sportive, comme là actuellement je suis intervenant avec la MJC pour leur faire faire de l'activité physique, pour promouvoir l'activité physique auprès du jeune public. Donc là c'est vraiment de la découverte, de l'initiation. Et j'aime aussi la dominante santé du sport, puisque je suis intimement convaincu que le sport c'est un médicament. Et c'est peut-être une phrase un peu bateau et schématique, mais c'est vraiment vraiment intimement, je suis intimement convaincu que par l'activité physique on peut être vraiment dans le préventif et également dans le curatif.
Alors, et voilà. Toi, tu as commencé le sport comment alors ? Comment ça a commencé pour toi ?
Ah bah moi, c'est ça. Pour moi, à titre perso, le sport, ça a dû commencer au moment où j'ai commencé à marcher.
Ah oui, donc tout de suite, t'étais dedans.
Ça a été mon passe-temps favori. J'étais toujours dehors et que ce soit à grimper dans les arbres, à faire du roller dans la rue, à faire du foot avec les copains. Et depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être éducateur ou on disait prof de sport. Et voilà. Et donc depuis toujours, je suis un passionné et même j'en fatigue mes enfants et ma compagne avec ça.
À ce point-là,
oui. Ah oui, on en est à ce point-là. Ouais.
Donc les enfants, ils n'ont pas le choix, ils sont déjà au sport.
Oui, c'est un peu ça. Et ouais. Du coup, mon grand, je suis toujours en train de dire, allez, on va randonner, etc. Le week-end, il y a toujours la petite sortie obligatoire ou la petite activité physique, on va à la piscine. Et il est toujours en train de me dire, tu me fatigues avec ton sport. Donc voilà.
Et comment est venu le déclic alors de la fonction publique? Tu t'es dit, ouais, faut que je change, faut que je...
Là,
t'avais besoin de t'aérer un peu peut-être déjà?
Alors, du coup, on est quand même une génération où, pour le coup, on a peut-être besoin un peu de changement. Et on est prêt parfois peut-être à l'ancienne génération à prendre ce risque de changer, même si je change pas complètement de métier, mais en tout cas de statut, etc. Et là, en ce qui concerne le fait d'avoir pris une disponibilité à la mairie, c'était encore une fois par rapport à cette diversification d'intervention et du public. Mon idée, c'était vraiment de pouvoir travailler avec autant des personnes âgées et de faire de l'activité physique adaptée, travailler avec un public adulte sur du suivi de sport santé, autant avec les enfants, autant avec l'associatif. Et c'était vraiment de diversifier et de pas avoir la pression, pour le coup, de faire toujours la même chose. Et en l'occurrence, c'était très plaisant. Je veux dire, à la mairie, il n'y avait pas de problème particulier, mais c'est juste que j'étais intervenant sportif dans les écoles primaires. Et du coup, voilà, j'avais envie de changement. Voilà, tout simplement.
Ouais. Donc l'occasion s'est présentée, tu dis allez, on va essayer.
Voilà,
en plus, on a eu une période un peu compliquée au niveau sanitaire, donc est-ce que ça a été là le déclic aussi?
Plus ou moins, c'est vrai que je me suis aperçu aussi qu'il y avait un vrai besoin des gens de pratiquer du sport et qu'en fait, l'idée d'être un peu dans le coaching personnalisé, c'est très qualitatif. Alors c'est très qualitatif ce que font toutes les salles de sport, que ce soit des salles de sport entre guillemets privées ou les associations sportives sur le territoire. Enfin, je remets pas du tout en question ça, mais c'est plutôt par rapport à ce que recherchent les gens. Ce que recherchent les gens, c'est une flexibilité en termes d'horaire, avec des gens qui travaillent en décalé et qui parfois ne sont pas disponibles les soirs pour les associations ou en l'occurrence les cours sont le soir par exemple. Et aussi un suivi personnalisé où on peut jouer sur les pathologies de chacun. Il y a des personnes qui ont des tendinopathies à l'épaule, donc quand on est dans un cours collectif, peut-être que c'est difficile de faire attention à toutes les pathologies de chaque personne quand on a 20-30 personnes en face de nous. Et l'avantage du coaching individuel, c'est que on peut vraiment faire attention à ce type de choses. Et axer aussi les objectifs par rapport à ce que recherchent les gens. Les gens qui cherchent à travailler à un marathon, on va pas proposer évidemment les mêmes choses que quelqu'un qui veut simplement faire du sport santé. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait de faire du comme on dit, de la haute couture.
Oui. Et donc en plus, on est dans un territoire où pour faire des randonnées, il y a ce qu'il faut quand même. Hein. Donc là, le territoire pour toi, il est vaste parce que tu n'interviens pas que sur la communauté de communes. On peut dire que tu interviens sur d'autres territoires.
Ah ouais, du coup c'est aussi ce qui me plaisait et c'est effectivement ce que tu dis, on a la chance d'avoir un territoire riche en termes de forêt, etc. Et du coup le fait de pouvoir donner rendez-vous aux gens que je suis, un coup près de Rouville, un coup près d'Ormois, un coup sur la voie verte pour aller faire du roller, un coup dans le parc de Jérém et etc. c'est royal. Pour ça on est bien lotis, ouais, effectivement. Ouais.
Et donc, pourquoi Terroise alors? Terre, alors tu l'écris T-E-2-R, apostrophe Oise.
Voilà, c'est ça.
Alors, pourquoi?
Alors, Terroise, c'est parce que du coup, ça c'est l'association qu'on a créée avec des amis. C'est donc Quentin qui est à l'initiative du projet. Notre idée, c'était de pouvoir proposer des randonnées à thème sur tout le territoire de l'Oise. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, je parlais du territoire autour de Crépy pour la partie entre guillemets coaching. Là, pour la partie associative, et notamment, puisque c'est une association de randonnée affiliée à la Fédération française de randonnée, notre idée, c'était de faire découvrir le territoire. Puisque souvent, les gens randonnent autour de chez eux, même s'ils font de la marche nordique avec les clubs, etc. Ils marchent dans le coin. Et l'idée, c'était nous qu'on fasse vraiment l'effort de repérer les belles randonnées, repérer le patrimoine culturel aussi, et de les inciter à découvrir finalement des endroits qui sont proches de chez nous, mais qu'on ne connaît pas.
Voilà. Donc ça veut dire que ça fait un travail de repérage déjà aussi pour vous au départ, alors. T'es obligé d'aller faire des parcours, de faire des reconnaissances, c'est ça?
Bah, disons que on a plusieurs étapes. Il y a le fait d'utiliser notre logiciel de traçage de parcours où on peut commencer à estimer un petit peu la distance, le dénivelé, et à partir de là, avec notre expérience, on sait à peu près combien de temps on va mettre avec un groupe. Aussi en fonction de si on a beaucoup d'arrêts pour avoir des interventions justement sur la faune, la flore, le patrimoine culturel qu'on va rencontrer. Et ensuite, effectivement, on essaye vraiment de faire le repérage pour voir si les chemins sont praticables pour tout le monde, s'il n'y a pas eu des bardages de bois, puisque avec l'ONF qui fait des coupes de bois, etc. Parfois, c'est des périodes où c'est pas praticable avec tous les tracteurs qui sont passés, etc. Donc, c'est important en termes de sécurité et en termes de qualité de proposition d'encadrement, d'avoir repéré effectivement.
Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a même aussi des propriétés privées quand même dans les forêts. Des fois, il y a peut-être des endroits où vous pouvez peut-être pas marcher ou passer. Quoi.
On regarde le cadastre et on repère si c'est des chemins qui empruntent des propriétés privées. On doit aussi anticiper les périodes de chasse, puisqu'on va souvent dans des forêts domaniales, donc il y a un calendrier de chasse et c'est par zone. Et donc, il faut qu'on voit si cette zone est libre. Oui. Même si potentiellement on traverse des chemins de grande randonnée, des chemins qui sont qui appartiennent entre guillemets à l'État, et donc potentiellement on peut pratiquer dessus, mais c'est vrai que quand on emmène un groupe et qu'en l'occurrence il y a plein de chasseurs le long du chemin, oui, et qu'on est le long d'une parcelle privée, ils sont dos à nous, ils ont le fusil cassé, mais bon, c'est pas très agréable, pas très confortable.
Ça donne pas envie d'aller randonner, quoi, c'est clair. Hein.
Non.
Bref.
Oui.
Alors, Jean-Louis, tu as bossé un petit peu sur cette association ?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Alors,
pas
comment
vraiment.
Ça
Mais il y a quand même des choses qui m'interpellent.
Ah, voilà.
Oui. Par exemple, rando nocturne. Vrai ou faux ? Oui.
Ah, vrai, vrai.
Ouais,
je vous invite à venir participer.
D'accord.
Avec la lampe frontale et tout ? Comment ça se passe ?
Je ne sais pas si vous vouliez continuer, mais je peux vous en dire deux mots.
Allons-y, oui, bien sûr.
Alors, du coup, l'idée, c'est que, comme on explique aux gens qui sont venus faire les deux premières randos, ça fait déjà deux randos qu'on propose, une en janvier qui a eu du succès, on a dû arrêter les inscriptions, puisqu'il y a aussi le taux d'encadrement, et dans nocturne, c'est important quand même. Donc, on est trois, là, il y avait 40 personnes sur la première en janvier.
Ah oui.
Donc, on s'est mis à trois, comme ça, il y avait un qui ouvrait, un au milieu du groupe, et un fermeur, un serfier. Et sur la deuxième, on était environ 25, c'était vendredi dernier. Et en fait, l'idée, c'est qu'on essaye de s'améliorer. Et là, on a carrément proposé vendredi dernier de ne pas allumer les frontales. S'est dit, on démarre sans frontales.
Au clair de lune.
Voilà. Et donc, il y a eu un passage qui était technique parce que très boueux avec des ornières. On a dit aux gens, on va allumer les frontales parce que pour éviter les chutes, etc., on va quand même regarder le terrain. Mais si vous voulez, l'œil s'habitue à l'obscurité. Et si on démarre sans lumière, on peut très bien réussir à marcher.
Ah oui, on s'adapte.
Après, s'il y a une nuit une nuit noire, vraiment très sombre, c'est compliqué en plus dans les bois. Mais si on a une nuit qui est quand même assez claire, franchement, ça passe bien. Et on est allé du côté Vivier Corax près de la Croix-Saint-Ouen et on a vu la reproduction des grenouilles. On est arrivé à la fin, il y avait des centaines et des centaines de grenouilles avec le mâle qui était sur le dos de la femelle puisque le mâle est plus petit.
Ça devait faire un barouf terrible. Hein. Ça devait croasser de tous les côtés.
C'était super sympa. Vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook Terroise et il y a des photos de notre fameuse randonnée de vendredi dernier.
Ah, c'est super.
Voilà. Alors, rando nocturne, mais je vois aussi vadrouille mystère.
Ah. Alors ça, c'est avec la partie Sylvain Training. Donc, j'ai un partenariat. J'ai passé un partenariat avec l'Office du tourisme de Pierrefonds et communauté de communes des Lisières de l'Oise pour proposer une série de randonnées où les gens connaissent la date, mais ne savent pas le contenu de la randonnée. Et ne savent pas, jusqu'au dernier moment, le lieu de la randonnée. Et c'est sur le territoire, donc le territoire des Lisières de l'Oise, donc autour de Pierrefonds, Attichy, Couloisy, etc. Un territoire riche en histoire, etc. Et donc, du coup, il y a des randonnées à thème. Et il y a des randonnées famille, il y a des randonnées sportives, il y a des randonnées, évidemment, découvertes du patrimoine. Je ne peux pas vous en dire plus parce que du coup, c'est découverte au fur et à mesure.
Si c'est mystère, voilà, c'est mystère.
Oui. Alors, mais, Juste une question, si tu me permets, Jean-Louis. La commune de Pierrefonds est quand même au courant de ce que tu as proposé, quand même. Il y a quand même quelques personnes qui sont dans le secret.
Ah ben, c'est l'office du tourisme qui est pilote. Oui. C'est vraiment eux qui sont à l'initiative, qui ont eu l'idée du projet, etc. Et qui m'ont sollicité pour les aider à encadrer ces séances.
Très bien.
Voilà. Alors, si tu permets, entre les vadrouilles mystères et les randos nocturnes, je vais te proposer une partie de chasse au Dahu. Ça doit être tout à fait... Alors, pour ceux de nos auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec l'anthropozoologie ou l'anthrozoologie ou encore l'ethnozoologie, discipline sérieuse en sciences humaines, qui étudie les rapports passés ou présents entre le monde animal et les sociétés humaines. Alors je vous propose un petit précis sur cet animal sauvage qu'est le Dahu. De tradition orale, les histoires relatives au Dahu se sont répandues un peu partout en France, en Suisse, en Italie et surtout en forêt de Compiègne. Et là, ça nous concerne. Et principalement autour et aux alentours de Pierrefonds et du Mont-Saint-Marc. On est dans notre cour. Avant de partir nuitamment à la chasse, il est important de faire une brève initiation sur le gibier et ses techniques de capture. Alors, description du Dahu. Appartenant au groupe Dahus rupicata vaca montanus, le Dahu est un mammifère herbivore de la taille d'un bouquetin, d'un chamois ou d'un chevreuil. L'animal arbore un soyeux pelage brun-gris et des oreilles légèrement tombantes. Le Dahu mesure entre 80 et 160 cm de hauteur, pèse de 23 à 50 kg. Très craintif, mais doux de caractère, il est très difficile à observer. Vivant depuis toujours sur des pentes abruptes, le caprin a développé une particularité physique. Ses pattes côté amont sont plus courtes que celles du côté aval. Si sa morphologie lui permet de conserver un très bon équilibre quand il se déplace à flanc de mont, elle l'oblige à se déplacer systématiquement dans le même sens, sans jamais pouvoir faire demi-tour. Il existe quatre espèces reconnues de Dahu. Le lévogyre, ou Dahu droitier, les pattes plus longues à droite. Le dextrogyre, ou Dahu gaucher, pattes plus longues à gauche. Et les Acanthus frontalis, pattes de derrière plus longues, et les Descendus frontalis, pattes de devant plus longues. Ces deux dernières races sont aujourd'hui complètement éteintes. Le Dahu est un animal en voie de disparition, principalement en raison de sa difficulté à se reproduire. Aujourd'hui, seule l'espèce lévogyre ne serait pas éteinte, en partie grâce à l'action de la Fondation Pierre Dac, qui organise tous les 1er avril un lâcher de Dahu élevé en captivité. La reproduction du Dahu. Chez cette espèce, la saison des amours se tient entre le 1er janvier et le 31 décembre. Incapable de se retourner sans tomber, le Dahu doit faire le tour de la montagne pour rejoindre la femelle. Si pendant ce temps-là, celle-ci est descendue d'un niveau, l'accouplement est impossible et le mâle doit refaire un tour. Certains individus meurent d'épuisement à force de tourner sans jamais pouvoir rattraper leur partenaire. C'est pourquoi seuls les sujets les plus résistants parviennent à se reproduire. Pour les Acanthus frontalis et les Descendus frontalis, la mission est impossible, ce qui explique leur disparition à l'état sauvage. Technique de chasse au Dahu. Plusieurs méthodes de chasse au Dahu existent selon les régions. En forêt de Compiègne, ce qui nous intéresse, il faut se munir d'un pochon de papier que l'on gonfle d'air et se mettre à l'affût à mi-pente, non loin de l'esplanade des Beaumonts, et attendre que l'animal survienne. Au moment de la confrontation, faire exploser le pochon de papier par une frappe violente de la main, la créature effrayée fait demi-tour, perd l'équilibre et tombe. Il ne reste plus qu'à le capturer, le baguer, le remettre dans le bon sens et le relâcher. La chasse au Dahu est un acte respectueux de la biodiversité. Si vous avez suivi ces explications, mon cher Sylvain, jusqu'au bout sans hausser les épaules, je suis sûr que vous allez épingler cette nouvelle activité au programme de Terroise.
C'est ce que j'allais dire. Merci, bravo pour ce descriptif.
Dis donc, mais tu vas chercher où ces infos, Jean-Louis, là, dis-moi.
Ah, c'est de longues recherches et des confidences de mon petit doigt.
Ah, voilà, ouais. C'est une Fondation Pierre Dac, quand même. Hein. Fallait la trouver, celle-là. Hein.
Oui, mais c'est j'ai été élevé par Pierre Dac.
Ah, c'est pour ça.
Je vais proposer un prochain thème de randonnée.
Et ça peut être marrant, ah, oui, ouais, la chasse aux dahuts, tu te rends compte, toi.
Ah, ouais.
Et on parle de ça. Déjà, quand j'étais gamin, on parlait déjà de la chasse aux dahuts, donc ça date depuis très longtemps, ça.
Ben, c'est ancestral. Ça a beaucoup été pratiqué par au niveau de l'avènement du tourisme dans les campagnes où les campagnards voyaient arriver les Parisiens. Et autour du bar du village, ils ont commencé à évoquer le mythe du Dahu, et donc ça intéressait plus ou moins les Parisiens qui ne voulaient pas mourir idiots, et donc ils se laissaient facilement intéresser et facilement se faire emmener à la chasse au Dahu, qui est un canular.
Oui. Et justement, on parle de Parisiens. Est-ce que tu as beaucoup de gens de la région parisienne qui viennent randonner, Sylvain?
Non, pour l'instant,
ça reste local.
Ça reste assez local, puisque voilà, c'est une association qui a été créée au mois d'août.
Donc c'est
tout récent. Mmh. Notre idée, c'est effectivement de développer dans ce sens, puisque on démarche auprès des communautés de communes tout autour, donc le Valois, l'Isère de l'Oise, je le disais avec Pierre Font, mais aussi la CC2V des Deux Vallées, donc communauté de communes des Deux Vallées au niveau de Tourotte, au niveau de l'Arc, donc à Compiègne, pour justement être aussi des prestataires s'ils veulent développer le tourisme. On propose des prestations du type randonnée gourmande, où on va essayer d'aller voir tous les maraîchers, les brasseurs du coin, et essayer de les réunir à travers une randonnée où à chaque fois les gens s'arrêtent au bout de quelques kilomètres, il y a un stand, ils découvrent les fruits et légumes du coin, les bières du coin aussi, etc. Enfin, les produits locaux, tout simplement.
C'est une manière de faire consommer localement, quoi. C'est ça.
Voilà, et de faire connaître finalement notre territoire où c'est vraiment proche de la région parisienne, et rapidement on peut passer un week-end très agréable, très nature, découvrir des bons produits avec le commerce de circuits courts qui revient aussi, qui est à la mode actuellement. Et l'idée, c'est de, à travers tout ça, c'est tout lié, essayer de mettre la partie un petit peu loisir, la partie découverte, la partie gastronomique aussi. Et nous, on veut essayer de développer en ce sens avec Terroise. On a aussi des projets d'événements en randonnée et de marche nordique, des événements, puisque on voit beaucoup, beaucoup de courses, de trail, des courses nature fleurir.
Ah oui,
et
nous, de plus en plus.
Et dans tous les petits villages, et d'ailleurs, c'est super. Mais du coup, il y a toujours des randonnées en marge de ces courses. Mais en fait, nous, on aimerait mettre en avant aussi les marcheurs, puisque c'est aussi maintenant devenu, selon nous, une vraie discipline à part entière. Alors la randonnée toujours, mais la marche nordique et la marche un peu sportive, y a des gens, ils ont vraiment trouvé cette activité comme leur activité principale. Et ils aiment aller marcher dans la forêt tous les week-ends et marcher de manière vraiment active, avec ou sans bâton. Donc quand je dis marche nordique, c'est justement une marche avec bâton. Et du coup, nous, on a envie de mettre en avant cette discipline. Et du coup, on réfléchit à des événements spécifiques pour les randonneurs et les marcheurs. Voilà.
Alors oui, je t'ai vu intervenir des fois sur, notamment, je t'ai vu avec les Loudivores,
oui,
où tu étais là-bas.
Tout à fait.
Où c'était justement des trails, hein, c'est ça, de training, hein. C'était des courses, là. Hein.
Là, en fait, c'était des courses, mais du coup, ils ont...
Donc tu préparais les gens, c'est ça?
Voilà, ils m'avaient demandé de venir pour échauffer donc avant les différents départs, pour que ce soit festif. Et du coup... Eux, ce qu'ils font, c'est que des principes originaux avec des relais, avec des distances différentes pour, par exemple, courir avec ses enfants ou les fratries peuvent courir ensemble. Il y a 400 mètres. Après, le petit qui court 400 mètres, il donne le relais à celui qui fait 900 mètres et après celui qui fait 1,5 km. J'ai plus exactement les distances en tête, mais c'est un peu le principe.
Ils s'associent vélo et course à pied.
Et ça, c'est le deuxième. C'est donc au mois de mai, le 14 mai, les Loudivores font un run and bike. Voilà. Donc un run and bike avec 800-900 mètres pour les petits, un 6 km pour des adultes ou des enfants avec adultes, et sinon un 12 km pour les adultes. Ils ont des principes.
Je trouve que c'est une belle solution parce que ça permet d'allier des familles, faire parcourir Découvrir la nature aussi, bien sûr, parce que c'est autour d'Ivor que ça se passe. Mais il n'y a pas qu'Ivor. Je prends l'exemple d'Ivor parce que
ça
on les avait reçus ici à la radio. Et moi, je trouve ça bien de courir avec ses enfants, de partager, quoi, ou avec papy, ou voilà.
Exactement.
Il y a toute génération. Hein.
Oui.
Et justement, toi, les randonneurs, c'est quelle génération que tu as? C'est beaucoup plus des anciens, peut-être?
Alors.
Ça touche plus les anciens?
Pour les randonnées nocturnes, par exemple, je veux dire, là, c'était assez hétérogène. Parce que du coup, on avait ouvert à partir de 8 ans. Alors évidemment, faut connaître ses enfants et être sûr que c'est un bon randonneur, parce que on marchait 2 heures en fin de journée, de nuit, etc. Mais il y avait des ados aussi. Il y a eu des ados et donc oui, c'est souvent un public plutôt aux alentours de la cinquantaine, mais on voit petit à petit que des gens de la trentaine s'intéressent vraiment à la rando, parce que évidemment je vais pas énumérer tous les bienfaits de la randonnée, etc., mais les gens se rendent compte de l'intérêt pour eux d'aller dans la nature et d'aller s'oxygéner et de prendre le temps, faire de l'activité. Mais parce que tout à l'heure, Jean-Louis parlait de sport et tout de suite on dit « Oh, je suis pas très sportif », mais souvent le sport, c'est connoté vraiment difficile, inconfortable. Mais là, la randonnée, c'est une activité de loisir. Bien sûr, s'il y a des montées, ça peut être des fois un peu technique, ça peut être un petit peu éprouvant, mais malgré tout, ça fait du bien mentalement.
Oui.
Et on peut faire ça de manière
douce. Et vous adaptez au public que vous avez, quoi. Je suppose que voilà, vous êtes à l'écoute des gens.
Tout à fait. L'idée, c'est à chaque fois on est deux. À partir du moment où c'est un groupe qui est conséquent, on est deux. Comme je disais, avec l'ouvreur et le fermeur, le serfil, pour que justement, si à un moment donné on a les talkie-walkie, ça marche un peu trop vite, on s'appelle, on dit là, il faut que tu ralentisses, faut que tu t'arrêtes au prochain carrefour, etc. L'idée, c'est que vraiment les gens ils trouvent leur compte, quel que soit leur niveau.
Oui. Et quelles sont les compétences requises pour accompagner? Alors, je suppose qu'il faut avoir un peu de notion de sauveteur-secouriste, peut-être.
Alors,
quelles sont les compétences?
Alors, nous, en ce qui nous concerne à Terroise, ceux qui vont encadrer, c'est des gens diplômés d'État.
Ah oui.
Ce qui se passe, c'est que, par exemple, à partir du moment où il y a des encadrants, par exemple, à la Fédération française de randonnée, on passe des diplômes fédéraux. On n'est pas obligé d'être diplômé d'État pour accompagner des groupes. Mais nous, on est avec Quentin, en l'occurrence, on est diplômé d'État. Et donc, on peut encadrer et on est obligé, dans ce cadre-là, en plus, sous rémunération, on est obligé d'être formé au secourisme. Donc, on a nos diplômes de secourisme recyclés chaque année.
Oui, parce que, comme tu dis, des fois, il y a des chemins un peu compliqués où tu peux glisser, tu peux te faire du mal. Donc, c'est quand même important de savoir que vous êtes, hâte à prendre les premiers secours.
Tout à fait. Alors, du coup, tu me demandais les compétences. Là, évidemment, les compétences prioritaires, c'est ces notions de sécurité et de secourisme. Après, il y a d'autres compétences sur la lecture du terrain, sur la gestion de groupe, etc. Le fait d'aller repérer, c'est-à-dire vraiment connaître dans quel territoire on est, etc., etc. Mais en l'occurrence, la priorité, et tu l'as dit et tu as bien fait de le dire, ça reste la sécurité.
Voilà. Et pour être un bon randonneur, alors, dans son sac à dos, qu'est-ce qu'on met? Une bouteille d'eau, un truc à grignoter, dis-moi.
C'est marrant, ça fait l'objet de quiz que je fais souvent en randonnée. En fait, je m'amuse à énumérer avec des équipes. Je fais des équipes et chaque équipe doit dire quelque chose qui doit apparaître dans le sac. Si on écoute tout ce que j'ai dans le sac, on en a pour une heure d'émission, parce que ça va de la pierre à feu, au cas où
on doit,
puisque du coup, si un jour il y a un souci, qu'on doit dormir en forêt, et que le briquet ne fonctionne pas.
On est passé à autre chose, là.
Alors, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que du coup, je peux énumérer toute la trousse de secours, mais on peut aussi avoir plein de petits objets comme ça. Il y a des micros purs, c'est des petites pastilles purifiantes qui purifient l'eau,
ou des
filtres. Comment?
L'éclair au chocolat.
Non. Ouais. Il y a le préservatif pour faire une réserve d'eau. C'est à un moment donné, on doit se déplacer, on met de l'eau dedans. Il peut y avoir plein de choses. Il y a toujours de la ficelle et le couteau qui sont des choses primordiales. Moi, je sais que j'ai un poncho parce que avec un poncho, on met deux bâtons et ça fait un abri de fortune si je dois dormir dans la forêt. En fait, il peut y avoir plein de choses dans un sac à dos de randonneur. Mais du coup, il y a des choses prioritaires comme la couverture de survie, par exemple. Couverture de survie, ça peut vous sauver dans un sens comme dans l'autre, en cas de canicule ou à contrario, en cas de grand froid. Et du coup, il y a l'eau et puis de quoi s'alimenter au cas où, encore une fois.
D'accord. Et ça, tu l'apprends Par des cours que tu as fait ou comment alors, tu as appris tout ça, tous ces gestes?
Alors ça, c'est un peu l'expérience, puisque depuis tout petit, je fais de la randonnée et je suis dans la forêt depuis tout petit. Donc il y a des choses qui sont empiriques dans ma manière d'avoir appris les choses. Mais il y a aussi tout ce qui est formation sur...
ces formations.
Voilà, il y a des formations, donc je disais fédérales, où on part en formation avec la Fédération française de randonnée ou autre pour justement avoir des piqûres de rappel sur ces choses-là.
Très bien. Alors, tu nous as ramené de la musique, Sylvain ?
Oui, tout à fait.
On va écouter, puis après on commentera ton choix ?
Oui, très bien.
Allez, c'est parti.
Avec plaisir.
Voilà Sylvain, ton choix musical, peux-tu nous le commenter s'il te plaît ?
Alors oui, j'ai choisi, bon, c'est toujours difficile de choisir une chanson, en l'occurrence celle-ci c'est un peu celle du moment, c'est une bande originale de film de Disney, et du coup c'est Carlos Vives qui chante. Donc à court terme en ce moment c'est la chanson que je mets le week-end quand je danse avec mes enfants, quand on fait un peu la fête, elle est très festive, et aussi Carlos Vives, donc c'est un chanteur colombien, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman voire le Johnny en Colombie et en Amérique latine, et je suis parti en voyage en Colombie quand j'étais encore jeune, et voilà, et du coup ça me rappelle plein de souvenirs de mon voyage en Amérique du Sud où j'ai découvert Carlos Vives, et du coup ça me fait penser à plein de moments, ça me rappelle des bons souvenirs, et j'ai trouvé que c'était sympa le côté jeune adulte, voilà, quand je voyageais un peu plus, et puis maintenant avec mes enfants quand je fais la fête. Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
Et on peut mettre de la musique en randonnant ou c'est plus découvert de la nature quand même ? C'est plus observer, écouter ce qui se passe dans la forêt peut-être ?
Oh, moi j'ai une philosophie de me dire chacun fait comme il l'entend. Malgré tout, moi ma philosophie c'est justement de profiter d'être dans la nature pour écouter non seulement les bruits de la nature, écouter le silence de la nature entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment silencieux, mais c'est aussi voilà ce côté... calme que l'on n'a pas au quotidien dans nos vies de tous les jours.
Une très jolie symphonie, la nature.
Eh oui, 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 complètement.
Alors, vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit Sylvain Ferrand. Donc, Sylvain qui a sa micro-société Sylvain Training, qui nous en a parlé au début d'émission, mais qui est là surtout pour nous parler de son association Terroise qui vient de se créer depuis le mois d'août, donc tout récemment. Et donc, si vous avez des questions à poser à Sylvain, il y a le Facebook RVM FM ou le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. On lui transmettra toutes ces questions. Parce que la randonnée, hein, on a de quoi faire dans la région. Hein, donc, je crois que c'est inépuisable. T'as combien de parcours là ?
Oh, voilà. Vraiment, pour le coup, c'est inépuisable. Puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des endroits qui sont proches de chez nous. Quand je dis proches, même voilà, une demi-heure de route. Et en fait, il y a plein de monuments historiques. Là, le dimanche 12 mars, on était à Nancelle. Alors, je ne sais pas si on dit Nancelle ou Nancelle, au nord des lisières de l'Oise. Et c'est un abri allemand qui était caché, qu'on a découvert après-guerre. Il y a des carrières, il y a des bunkers, etc. Et l'office du tourisme a fait même une petite rando, et avec des explications au centre du village, etc. Et pendant la Première Guerre mondiale, il s'est passé plein de choses dans ce village, etc. Et donc, du coup, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que, finalement, à quelques minutes de chez nous, en tout cas, nous, on parle pour le territoire du Valois, il y a plein de choses à découvrir. Alors, du coup, les randonnées, il y en a des centaines et des centaines. Pour le coup.
Jean-Louis, ça donne envie de faire de la randonnée ? Parce que tu pratiques un petit peu quand même.
Oui, oui, de moins en moins, hélas. Effectivement, j'ai fait beaucoup de randonnées, fut un temps, notamment sur les sentiers des Vosges. C'est un terrain de jeu que j'adorais. Maintenant, c'est un peu plus compliqué avec l'âge et puis avec ce qui arrive à tout le monde. Hein. Les douleurs par-ci par-là, mais c'est vrai que en faisant doucement, c'est super sympa, et avec quelqu'un comme Sylvain qui prend en compte justement les pathologies de ces randonneurs, ça doit être effectivement fort agréable. Et puis bon, le côté aussi tourisme dans notre région, alors ça c'est quelque chose qu'on peut découvrir tout en étant natif d'ici. Ouais, je crois que Sylvain, t'es natif de Crépy, hein. Moi aussi, mais on peut encore découvrir des trucs tous les jours, même en ayant cru parcourir tout le territoire. C'est formidable. Hein.
Et du coup, je me permets de rebondir, puisque on a beaucoup parlé de nos randonnées à thème que l'on propose ici. Mais avec Terroise, donc c'est déjà effectif, puisque Quentin, avec qui on a créé l'association, part en week-end, amène en week-end les gens. Donc on propose aussi des week-ends randonnées avec Terroise. Par exemple, on va amener les gens à Verdun. Alors moi, je ne serai pas là, c'est Quentin qui gère. On loue un minibus. Et il amène les gens, donc tout est compté dans le week-end. On paye la prestation, la personne paye la prestation, et du coup le transport, le logement, la nourriture et les randos, tout est organisé par Terroise. D'accord. Et donc du coup c'est quelque chose qu'on souhaite aussi développer. On va voir, c'est la création, on va voir un petit peu comment ça répond, l'attente des gens, mais ça peut être l'occasion de passer un week-end un petit peu clé en main, où on peut y aller avec des amis, avec de la famille, on a juste à se laisser porter et profiter de notre organisation.
Super. Et tu nous as parlé aussi avant l'émission, on s'est vu 5 minutes avant, d'une association qui s'appelle Peace and Sport.
Ouais.
Donc, tu peux nous en parler 2 minutes ?
Oui, bien sûr. Au contraire, dans le cadre de mon métier, de ma micro-entreprise, je suis intervenant avec une association qui s'appelle Peace and Sport. Donc, c'est une association monégasque, donc avec le parrain qui est le prince Albert de Monaco. Alors, ils ont deux objectifs principaux, c'est d'aller sur les terrains anciennement en guerre, donc en Afrique, etc., où il y avait des ethnies qui se faisaient la guerre, et de leur organiser du sport, des espèces d'olympiades, pour essayer de réunir les gens. Et en gros, l'objet, c'est le sport, c'est-à-dire essayer de réunir les gens par le sport, pour leur montrer que quand on fait du sport ensemble, qu'on respecte des règles, etc., on peut cohabiter, on peut vivre ensemble, etc. Donc ça, c'est une des parties de Peace and Sport, et l'autre partie, c'est l'insertion professionnelle. Et c'est celle-là qui m'intéresse, entre guillemets, puisque je suis partie prenante. Du coup, c'est une association à Pont-Sainte-Maxence qui est pilote de ce dispositif. Et donc, en fait, il y a des bénéficiaires qui, avec le conseil départemental, qui paye à l'association Peace and Sport pour que les intervenants puissent travailler. Et du coup, les bénéficiaires, une quinzaine de bénéficiaires, vont pratiquer du sport tout au long de la journée, soit de l'équitation, soit de l'escalade avec moi, donc de la randonnée, de la marche nordique, de la course d'orientation. Et on va travailler sur les compétences comportementales. C'est-à-dire que vous savez, dans le monde du travail, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire la partie technique du travail, et il y a le savoir-être. Donc c'est plus la partie comportementale. Et du coup, on va travailler sur ces gens qui sont au RSA, des gens qui sont au chômage de longue date, qui sont un petit peu décrochés du monde du travail. On va travailler sur ces compétences, c'est-à-dire déjà travailler sur leur estime de soi, prendre confiance en eux, donc à travers l'équitation, l'escalade, voilà, on se dépasse un peu. Et donc il y a ces notions de d'assiduité, cette notion de ponctualité, la persévérance pour travailler un geste technique en sport, il faut le répéter. Et ben du coup, quand on arrive sur un travail, une nouvelle tâche dans un nouveau travail, il faut être persévérant. On n'est pas hyper productif en l'espace de quelques jours. Et il y a aussi tout ce qui est travail sur les émotions. C'est-à-dire, c'est des gens, il faut travailler sur les émotions, le fait de s'énerver, le fait de toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on travaille à travers l'activité physique. On met en place des exercices et on fait des arrêts sur image et on leur explique qu'est-ce qu'on a travaillé comme compétence, qu'est-ce qu'on a travaillé comme compétence comportementale. Et voilà, c'est très, très intéressant et très riche. Et c'est vraiment une nouvelle utilisation du sport.
Et ça touche toute tranche d'âge, c'est ça ? Ça commence à 18 ans ou...
Les bénéficiaires, généralement, il peut y avoir des jeunes qui ont vraiment 18 ans et certains seniors qui sont du coup en reconversion ou autre et qui ont du coup été décrochés du travail, qui ont perdu un peu confiance en eux, etc., qui ont perdu toutes les habitudes professionnelles. Et à travers ce dispositif, on travaille aussi sur le sport santé. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont aussi décrochés de l'activité physique, qui ont parfois une hygiène de vie qui n'est pas tip top. Et donc du coup, on leur parle du petit déjeuner, du déjeuner, du dîner, et on les remet aussi en route physiquement.
Oui, donc c'est vrai que pour le sport, la nutrition, c'est hyper important, quoi. Et donc, il faut savoir manger, équilibrer et tout ça, oui.
Que ce soit pour quelqu'un de sportif ou non, oui. D'ailleurs. Mais oui, c'est une hygiène de vie globale. Là où je te rejoins, c'est cette idée d'hygiène de vie globale où on est dans une spirale positive, on est dans un cercle vertueux et, à contrario, on n'est pas dans un cercle vicieux où on est dans la malbouffe, on est dans la sédentarité et du coup, on perd aussi confiance en soi, etc.
Oui, parce que là, je vois, en période d'inflation comme maintenant, on mange mal, quoi, c'est clair. Hein. On va des fois au prix les plus bas, hein, mais souvent, c'est pas des bons produits pour nous, quoi. Malheureusement,
qualité, oui. Tout à fait.
J'en suis même le premier, hein, je peux en témoigner, donc je mange très mal des fois. Jean-Louis, oui. Maintenant que tu vas randonner, tu aimerais découvrir quoi ? La marche nocturne, tu aimerais faire quelle la marche mystère, oui, la chasse au dahu.
Oui, la chasse au dahu, j'ai déjà pratiqué.
Voilà, tu connais.
Je crois que là,
bon,
je veux bien essayer d'emmener quelques jeunes en difficulté, vraiment en grande difficulté. Alors la chasse au dahu. Non, mais moi je remarque que Sylvain a un domaine extraordinaire, santé, social, là on vient de parler social, loisir, c'est vraiment, il est charmant cet homme-là. Hein.
On disait tout à l'heure, c'est sylvothérapie, c'est ça. Hein.
Oui, quand on parlait de sylvothérapie, le fait de faire la thérapie en forêt.
En forêt, ouais,
voilà. On s'est dit, c'est sylvothérapie, voilà, c'est ça.
Et d'ailleurs, je crois que le prénom Sylvain vient de la forêt. Hein.
Sylva, ça signifie forêt, ouais. C'est l'origine.
Tout était écrit à l'avance alors. Hein.
C'est ça.
Voilà. En tout cas... C'est sûr que les randonnées nocturnes, parce que arrivé à un certain âge, on veut pas louper son feuilleton du soir.
Mais maintenant on peut enregistrer, hein, tu sais. Hein.
Ah, tu crois ?
Oui, il y a moyen de revoir en replay ce qu'ils appellent, voilà. T'as pas d'excuses à ce niveau-là. Hein.
Mais si, on trouve toujours des excuses, des mauvaises excuses. D'ailleurs, par contre, oui, les randonnées diurnes découvertes, ça, c'est... Et puis, le fait que il n'y ait pas de performance à accomplir.
Pas une compétition, quoi, voilà, c'est ça. Hein.
Voilà, qu'on puisse choisir une catégorie où on se sente bien. Hein, parce qu'il y a des catégories, quand j'entends run and bike, Oui. Déjà, ça me run, ça me fait peur déjà parce que c'est.
C'est course et vélo.
Il faut courir, oui.
C'est de l'anglo-saxon, j'aime pas trop. Je préfère de loin une randonnée plutôt qu'une family training.
Ah bah si, ça peut être bien.
Je sais bien que ça s'adresse pas à la même catégorie de personnes, mais non, randonnée, ça suffit. Pas besoin de dire family training, mais enfin, ça c'est.
Non, le training, c'est pour l'effet poudre aux yeux, c'est pas. C'est plus pour donner un nom à l'activité.
Je voulais te l'entendre dire. Voilà, on déguise bien souvent derrière des vocables anglo-saxons des trucs qui sont toutes bêtes.
C'est sport en famille.
Et bien franchouillard.
Sport en famille.
Et ce qui est bien avec la randonnée, c'est qu'il y a quand même 4 saisons. Et la randonnée, tu peux faire 4 fois le trajet sur des saisons différentes. Tu ne vas jamais voir la même chose, quoi.
Ah ouais, effectivement, c'est pour ça que
la nature, elle est magnifique pour ça. Hein.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on, hormis le fait d'être parfois, et je veux pas faire de polémique, c'est juste pour dire, on est parfois embêté avec la chasse pour la période vraiment fin d'automne et hiver, et enfin hivernale. Mais du coup, nous, on est vraiment dans l'idée de proposer toutes les saisons. Puisque au-delà du fait qu'on puisse voir le paysage de manière différente, c'est aussi notre philosophie de dire, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que du mauvais matériel. Comme disent les Scandinaves. Oui. On peut pratiquer à tout moment. Et c'est agréable d'être dehors et on se couvre bien. Et même s'il y a du vent, même s'il pleut un peu, etc., et qu'il fait frais, rien ne nous empêche d'aller nous oxygéner. On a oublié un petit peu dans notre société c'est important d'être dehors. Mmh. Important de prendre l'air, quelle que soit la saison.
Oui. Et là, on arrive au printemps en plus. Là, donc tout va refleurir, tout va reprendre des belles couleurs de printemps. Et même les animaux, quoi, tu peux en apercevoir quand même, tu peux observer.
Alors, quand on est en groupe avec 40 personnes de nuit, avec,
tu les vois pas, quoi,
en train de papoter, oui. Voilà, une bande de gilets jaunes, on se demande ce qu'ils font dans la forêt.
C'est vous qui avez recyclé les gilets jaunes, alors.
On n'en voit pas beaucoup. On entend plutôt tout ce qui est chouette, ulotte, etc., les animaux nocturnes qui, comme ça. Mais et on peut entendre un petit peu des bruits, un petit peu de broussailles à droite, à gauche, mais on les voit pas. Par contre, en journée, ça nous arrive de voir un peu des animaux quand on est un groupe un peu plus restreint. Encore une fois, on est un
l'observation est différente.
Oui, ouais, voilà, on est un peu moins bruyant, etc. Quoi.
Donc, ouais. Et là, on développe de plus en plus de voies vertes, hein, ce qu'on appelle les voies vertes. Là, donc, ça aide justement à récupérer encore des chemins de rando. Bon, souvent, c'est des chemins qui sont bétonnés ou en terre battue, je ne sais pas en quoi, mais. Est-ce que c'est des chemins que tu préfères ou tu préfères vraiment la forêt ?
Alors, moi, je préfère vraiment la forêt. Et puis, dans l'idée, encore une fois, dans notre façon de voir, c'est d'essayer de limiter au maximum les parties bitumées. Malgré tout, en randonnée, il y a des moments, quand on fait un choix d'itinéraire, on est quand même obligé de passer par des phases de petites routes de village, etc. Et si on doit passer par une voie verte, moi, j'ai rien. Au contraire, j'ai rien contre les voies vertes. C'est quand même super confortable et agréable de partir en famille, faire du vélo, justement, quand les enfants apprennent à faire du vélo, faire du VTT sur des chemins de terre, c'est pas facile. Donc, les voies vertes, nous, dans la rando, on n'en utilise pas trop, mais par contre, c'est génial.
Alors, est-ce que vous pourriez préparer des sportifs pour les JO 2024?
Quand même pas.
De toute façon, déjà, ils sont déjà en route là, depuis un moment. Là.
Oui, puis,
ils sont déjà en préparation physique depuis un petit moment.
Encore une fois, on fait les choses, quand moi je parlais rapidement tout à l'heure de la partie optimisation à la performance, qu'on s'entende bien, moi je parle de sportifs amateurs, bon, sauf un qui est professionnel, je coach un boxeur crépinois qui est un boxeur professionnel, Mohamed, à qui je fais coucou, Mohamed Sharef, qui est un boxeur pro, mais en l'occurrence, je reste à ma place, quand je dis optimisation à la performance, pour la grande majorité, c'est des bons sportifs amateurs qui se préparent pour des ultra-trails, des marathons, etc., voilà.
Voilà. Alors, tu sais que la ville de Crépy, elle a le diplôme Terre de Jeu, quoi.
Tout à fait, le label.
Est-ce que toi, tu pourrais participer avec ton association terroise à Terre de Jeu? Est-ce que vous pourriez proposer des activités?
C'est déjà en pourparler. Il y a déjà des projets en vue. Bon, sachant qu'il faut savoir qu'au service des sports, il y a un chargé de mission, Geoffrey, qui déjà organise énormément d'événements autour de Terre de Jeu. Il y a les écoles crépinoises font énormément de choses pour Terre de Jeu. Nous, on se présente toujours comme support. Là, il y a dans le cadre de Délivrez-vous, il y a une color run. Donc, colorez-vous. Oui. Donc, j'interviens avec le service des sports pour l'organisation. Je vais faire les échauffements, etc.
Et Jean-Louis nous prépare aussi. Il est en train de nous échauffer pour le direct. Car la radio sera présente le 2 avril.
Tout à fait. Super. Le 2 avril, l'après-midi en direct avec cette manifestation qui va se dérouler en partie à notre porte.
Ouais, exactement. Ah, oui, exactement. On a juste à ouvrir les portes et on est là.
Ça part de Carrefour, de la place du marché.
Et puis c'est sur la place Jean-Philippe Rameau surtout. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et donc Jean-Louis, c'est notre coach logistique. Voilà.
D'accord.
Technique. Voilà. Comme quoi, il y a des coachs dans tous les domaines. Ouais, c'est ça, dans tous les domaines de compétences. Ouais.
Donc voilà, nous, c'est un peu dans ce cadre-là. Et nous, on est ouvert, ils le savent. On a déjà démarché auprès d'eux, ils nous connaissent, hein, évidemment. Donc s'ils nous sollicitent, on répondra favorablement, évidemment.
Eh bien, écoute, Sylvain, est-ce que tu as des événements à mettre en avant? Est-ce que vous avez des projets qui arrivent là, pour ce début d'année? Enfin, début d'année, on est quand même fin mars.
Oui, tout cas, pour le reste de l'année, faut regarder sur notre page, on a encore des week-ends, du coup, comme je parlais tout à l'heure, de prévus. On a des randonnées à thème de prévus. Il y en a une le 2 avril, le matin, il y a une randonnée. Oui, c'est le 2 avril, le dimanche matin, pardon. Il y a une randonnée organisée, etc. Moi, il y a évidemment plein de projets. Je peux même pas. Enfin, je vais pas les énumérer parce que
il y en a
un peu pratiquement tous les week-ends. Mais en tout cas, voilà, ça suit son cours et c'est top.
Bon, bah alors, ta famille, elle a intérêt à suivre alors, hein, puisque si t'es jamais là les week-ends.
Mais du coup, c'est une gymnastique un petit peu, c'est une organisation tout du moins pour faire attention aussi à cet aspect-là qui est très très important pour moi. Donc après, c'est une année de développement pour mon entreprise et mon association. Donc c'est normal aussi que ce soit un peu chronophage. Et après, les choses se mettront en place tranquillement.
Alors qu'est-ce qu'on te souhaite au niveau associatif et au niveau personnel, Sylvain?
Bah, que les gens soient satisfaits de ce qu'on leur propose et qu'on arrive à faire toujours de la qualité. Alors évidemment, il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des petites choses à régler. Notre objectif, c'est toujours de s'améliorer, mais que voilà, on puisse vraiment répondre à une demande des gens d'aller faire du sport, de s'éclater dans le sport, que ce soit dans du sport loisir, compétition, santé, et que voilà, on puisse développer plein d'idées autour du sport. Voilà.
Jean-Louis, une conclusion?
On peut peut-être rappeler les contacts pour se mettre en contact avec Sylvain et avec son association. Alors, je t'écoute, Sylvain, le site web.
Moi, en ce qui concerne Sylvain Training, il y a un site web, c'est sylvaintraining.fr. Vous y trouverez mon adresse et mon numéro de téléphone. Il y a aussi une page Facebook, Sylvain Training. Et ensuite, en ce qui concerne Terroise, le site est en construction. Donc, on n'a pas encore de nom de domaine. Mais on a par contre la page Facebook Terroise. TE2R'OISE, comme le département. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos propositions et nos événements.
Eh bien voilà, les auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous voulez découvrir notre territoire encore autrement...
Marchons, pardon.
Merci en tout cas de m'avoir laissé la possibilité de vous présenter tout ça de manière exhaustive, on va dire.
Eh bien merci Sylvain d'avoir répondu à notre invitation en tout cas. Et on va finir par dire merci Titi. Voilà, ça rappellera des souvenirs à pas mal de personnes qui te connaissent. Voilà.
À bientôt.
Et on va te remettre un diplôme d'émancipation radiophonique parce qu'ici, on a même des diplômes, tu vois.
Ah ben, j'ai bien fait de venir.
Voilà les auditeurs, donc vous pouvez réécouter cette émission le dimanche à partir de 16h et le mardi à partir de 10h. Et après, c'est en podcast. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.